c'est-à-dire 8 ans avant l'installation de la cour, et il n'a pas connu ce qu'il appelle lui-même le château de cartes, le Versailles jeune et triomphant. Au fond, il n'a connu que le Versailles du déclin. Sa première visite est du 1er janvier 1689. Il avait 14 ans et il est parti visiter Versailles, sans doute à cheval. Il n'avait pas osé prendre le carrosse de son père, et il a parcouru donc les 17 kilomètres pour arriver ici. On le revoit ensuite à la promotion du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'il a pu encore voir le mobilier d'argent qui va disparaître bientôt. Et au début de 1690, on le voit à la toilette de la Dauphine repérer un personnage célèbre, Madame de Beauvais, qui pendant près d'un demi-siècle plus tôt avait appris à Louis XIV le métier d'homme, et qu'il décrit comme vieille, chassieuse et borgnesse. Et la même année, le 25 avril, il assiste à ce qu'on appelait l'eau bénite de la même dauphine, c'est-à-dire le début de ses funérailles auxquelles il va aller assister à Saint-Denis, et où il est le témoin d'un épisode baroque. Il y avait un cierge creux rempli de louis d'or que, en principe, les assistants devaient se passer, et qui a fait l'objet d'une dispute entre les chapelains et les moines qui se le sont arrachés. Le cierge s'est brisé, les louis d'or sont tombés, et dans la bousculade, l'évêque a vu sa mitre tourner d'un coup de coude d'un des assistants. Il a eu du mal à la rattraper. Saint-Simon n'était pas tout à fait porté à ce genre d'épisode dont il a beaucoup apprécié. D'ailleurs, il assistera à toutes ces obsèques de la Dauphine. Il en rédigera une relation qui est sa première œuvre du connu. C'est à la suite de ces quelques visites très brèves à Versailles, en visiteur encore très discret, qu'il dit « Je pris donc la résolution de me tirer de l'enfance ». Et par conséquent, la nouvelle suivie visite, cette fois-ci le 30 juin 1691, il y arrive un peu fier de son état de fils de duc. Et il arrive au milieu d'un scandale. 5 jours auparavant, on s'était aperçu que quelqu'un avait découpé les franges des portières des rideaux et même emporté un morceau de la broderie du lit royal. Valet de chambre, le bon temps, était furieux, désolé, et recherchait le coupable partout. Saint-Simon a vu tout ce remue-ménage. Et il a assisté le soir au dîner du roi, au souper du roi au grand couvert, dans la salle des parcelles que nous avons, qui existe encore. Et le roi était seul à sa table, derrière lui son médecin d'Aquin, et derrière le médecin Saint-Simon. Et tout à coup, on a vu passer par-dessus les têtes un gros paquet qui est tombé sur la table en bousculant les mets. Et le roi, sans se démonter, a dit « Je pense que ce sont mes franges ». Et effectivement, on a ouvert le paquet, on a retrouvé les franges volées, avec un petit mot assez désinvolte qui se moquait un peu du valet de chambre. On n'a jamais su qui était l'auteur de ce crime de lèse-majesté, c'était peut-être le résultat d'un pari. C'était en tout cas un beau début pour un mémorialiste. La nouvelle visite de Saint-Simon, il l'a faite chargée par son père, qu'il avait chargé le 16 juin 1691 d'aller trouver Louvois. Ce qui était une mission difficile, car Louvois était un homme brutal, mal embauché, rogue, très difficile à aborder. Et Saint-Simon l'a croisé dans les couloirs, mais il ne pouvait pas encore l'aborder à ce moment-là. Il a attendu quelque temps, et 3 heures plus tard, tout à coup, la nouvelle s'est répandue dans les salons. Louvois était mort. Louvois était rentré chez lui à la surintendance, et il y était mort brusquement. Saint-Simon a été très frappé de cet événement, et il a eu l'idée d'essayer de voir quelle était la réaction du roi. Et il est allé suivre le roi qui était en promenade le long de l'orangerie. Et le roi se lui est apparu serein, délivré, comme s'il était enfin débarrassé de ce ministre qui était à la fois indispensable mais insupportable. Tout cela, c'était des visions de simples visiteurs. Il n'était pas question pour le jeune Saint-Simon, qui était encore vidame de Chartres, de jouer un rôle à la cour. Il fallait d'abord qu'il fût présenté. Et pour être présenté, il a monté vis-à-vis de ses parents toute une machinerie. Il leur a dit, voilà, je voudrais maintenant entrer dans les mousquetaires. Mon enfance est terminée, je veux rentrer dans le service et devenir mousquetaire. Et devant l'inquiétude de ses parents, qui le voyaient encore tout jeune, il leur a dit, mais n'ayez pas de crainte, le roi ne fait jamais campagne 2 ans de suite. Donc, il a fait campagne cette année, donc l'année prochaine, non. Or, les mousquetaires suivent toujours le roi dans ses campagnes. Donc, l'année prochaine, si on m'engage dans les mousquetaires, il n'y aura pas de problème, j'apprendrai mon métier bien tranquillement. Ce qui fait que, les parents ayant acquiescé, on a vu arriver à Versailles, le 28 octobre 1691, le vieux duc de Saint-Simon, cassé mais lucide, traînant derrière lui un petit jeune homme de 16 ans et qui avait l'air qui en paraissait 14. Les deux, père et fils, se sont placés sur le chemin du roi, qui, passant, a tout de suite reconnu un vieil ami de son père et l'a embrassé par 3 fois. Et le vieux duc, après une révérence, a dit « Sire, je vous présente mon fils qui voudrait entrer dans les mousquetaires. » Et le roi a tourné vers Saint-Simon son terrible visage, où maintenant 2 plis se creusaient de chaque côté de la bouche. Il l'a regardé d'un air sceptique en disant « Il est bien jeune ». Et le duc de Saint-Simon s'est ployé dans une nouvelle révérence en disant « Sire, il n'en aura que davantage de temps à servir votre majesté ». C'était un argument imparable. Le roi s'est incliné et quelques jours plus tard, le jeune Saint-Simon revêtait la célèbre soubre-veste ornée d'une fleur de lys en velours blanc sur la poitrine et dans le dos. Il était simple soldat, bien entendu, car Louvois avait décidé quelques mois auparavant que, qu'on fût bourgeois ou duc ou prince, il fallait, quand on entrait dans l'armée, commencer par être simple soldat. Il n'était pas question d'acheter tout de suite une compagnie, il fallait faire ses classes. Entre parenthèses, on peut dire que c'est la même... réserve, c'est la même obligation qui sera imposée quelques siècles plus tard au général de Gaulle. Donc, il apprend son métier, et en même temps, comme le métier lui laissait des loisirs, il hante les galeries de Versailles. Et un jour, le 9 janvier 92, dans la galerie de l'aile sud, il croise son vieil ami, le duc de Chartres, le fils du duc d'Orléans, qui avait l'air pressé. Il lui dit « Où allez-vous donc comme ça si vite ?» Et l'autre de répondre « Je vais chez le roi qui m'a mandé. » Et Saint-Simon s'est tourné vers la personne qui l'accompagnait en lui disant « Je conjecture quelque chose du mariage. » Et il était déjà, si jeune qu'il fût, il était déjà bien informé. Il savait que le roi méditait de marier son neveu, le duc de Chartres, à sa fille naturelle, mademoiselle de Blois, ce qui était, aux yeux de son frère, le duc d'Orléans, et surtout de sa femme, madame, un scandale épouvantable. Comment leur fils épousait une bâtarde, c'était abominable. Et le roi leur a imposé à tous les trois ce mariage de toute son autorité. Et Saint-Simon était là, il nous dit qu'il était là, quand il a vu madame, en pleine galerie des glaces, décocher à son fils un magistral soufflé. C'est une scène intéressante pour réfléchir à la façon dont Saint-Simon raconte les histoires, car on ne sait jamais très bien s'il était vraiment présent ou si on le lui a raconté. Mais là, il dit « j'étais là » et il n'a pas l'habitude de dire cela à faux. Il a donc participé aux brillantes fêtes du mariage, qui a eu lieu évidemment, et quelques jours plus tard, le 10 mai 1692, il a vu sa combinaison s'effondrer. Le roi partait en campagne, les mousquetaires le suivaient, et le duc et la duchesse de Saint-Simon, dans la cour de Versailles, voyant les troupes alignées le long des pavés que nous voyons encore, au son des tambours et des fifres, ont vu le cœur serré partir leur enfant déguisé en soldat. Voici le jeune Saint-Simon qui se trouve ainsi quelques mois plus tard au siège de Namur où il se conduit bien. Il n'était pas question pour un fils de duc de mal se conduire aux armées. C'était absolument son devoir d'État et donc c'est parfaitement convenable. Ce qui lui permet l'année suivante, en 1692, après une nouvelle visite de son père à Versailles, de pouvoir, son temps de simple soldat étant terminé, acheter une compagnie. Cet achat arrivait juste à temps. Le 3 mai 1693, le vieux duc de Saint-Simon mourait. Il n'y avait plus d'huile à la lampe d'écrire à son fils qui devenait instantanément duc de Saint-Simon. Mais ce nouveau duc de Saint-Simon devait espérer hériter des charges de son père. Et pour cela, avec sa mère, ils ont décidé de taire ce deuil et le lendemain matin de partir tout de suite pour Versailles voir le valet de chambre montant et de demander audience au roi pour solliciter les charges du défunt. Et voici, dès le lendemain matin, le jeune Saint-Simon qui cette fois-ci prend le carrosse ducal orné de la housse ducale et il franchit la grille de la seconde cour, privilège ducal, et il va à la recherche de Bontemps, qui va annoncer la mort au roi, et qui revient en disant au jeune Saint-Simon, « Eh bien, le roi vous attend cet après-midi. » Et l'après-midi, donc, voici Saint-Simon qui se présente. Or, Louis XIV était couché. Il avait pris médecine. c'est-à-dire un lavement. Et quand il prenait un lavement, il se couchait. Et donc, par conséquent, il cultivait, si j'ose dire, son lavement fait de poules d'écrevisses écrasées, de vipères écrasées, de tanins, de tamaris et de crottins de cheval. La chambre où il a reçu le jeune Saint-Simon était sa chambre de l'époque, c'est-à-dire à l'emplacement de notre salon de l'Œil de Bœuf. Les gouvernements du défunt étaient essentiellement deux. Il était gouverneur de Senlis, ce qui ne lui donnait pas beaucoup de pouvoir, ce qui lui donnait simplement chaque année le soin de désigner des terrains pour les concours de tir à l'arc, comme dans tout le nord de l'Île-de-France. Et un gouvernement beaucoup plus important était celui de la forteresse de Blaye, qui commandait l'esphère de la Gironde, qui existe encore, avec un fort de chaque côté de l'estuaire et un au milieu sur une île. Donc un barrage militaire tout à fait important. Le roi donc a confirmé au jeune Saint-Simon qu'il lui conférait les gouvernements de son père, et ça a été le début de sa carrière de courtisan. Mais il était toujours militaire et les armées repartaient en campagne. C'est une époque évidemment où on ne faisait la guerre que l'été. Et il a participé à une nouvelle victoire, celle de Nerwinden, au lendemain de la guerre. Le maréchal de Luxembourg a écrit à Louis XIV: « Vos ennemis ont fait des merveilles, vos troupes encore mieux. Pour moi, sire, je n'ai d'autre mérite que d'avoir exécuté vos ordres. Vous m'aviez dit d'attaquer une ville et de livrer une bataille, j'ai pris l'une et gagné l'autre. » Et de cette victoire, le jeune Saint-Simon était un peu solidaire. Il est rentré à la cour, mais à ce moment-là, il a vu une autre affaire tout à fait différente se dessiner. Le maréchal de Luxembourg, tout à fait auréolé de ses victoires, voulait gagner des rangs. Vous savez que les rangs à la cour de Versailles, c'était vraiment l'indice de la vie elle-même, de la vie quotidienne. Or, les ducs se plaçaient tous en ordre hiérarchique selon la date d'érection de leur duché, suivant la date de l'ancienneté du duché. Et le duché de Luxembourg était un duché assez récent, donc le maréchal se trouvait vers la queue des ducs. Et il, en excipant d'une certaine parenté, il voulait passer par-dessus la tête de toute une série de ducs et se poster au second rang derrière le duc d'Uzès, le plus ancien de la catégorie. Je n'essaierai pas de vous démonter le mécanisme de cette prétention, où il est question dans les papiers à la fois de duché femelle et d'érection. C'est vraiment un langage que nous ne comprenons plus dans ce sens-là. Mais les ducs, qui étaient un peu inquiets de cette revendication de Luxembourg, savaient que déjà le jeune Saint-Simon était expert dans ces matières. Et par conséquent, ils lui ont dit: c'est vous qui devriez nous défendre. Le Saint-Simon a accepté, mais il avait d'abord deux préalables. Il voulait devenir maître de camp, et par conséquent acheter un régiment, ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, et puis se marier. Et pour se marier, ce qu'il cherchait, c'est un tuteur, quelqu'un qui pourrait l'aider à la cour. Et il a jeté son dévolu sur le duc de Beauvilliers, qui était le seul ministre de Louis XIV qui fut duc, qui était un brave homme, déjà vieux courtisan, qui avait connu Molière, qui avait beaucoup travaillé avec lui. Et il avait 8 filles. Et Saint-Simon est allé le trouver en lui disant « C'est vous que j'aime, c'est vous que je veux pour beau-père, donnez-moi une de vos filles, n'importe laquelle. » Et le brave Beauvilliers a été un peu effaré de l'arrivée de ce jeune canard dans sa basse-cour. Et il lui dit « Mais mon jeune ami, je ne peux pas. Ma fille aînée veut se faire religieuse, la seconde est manchotte et les autres sont vraiment encore trop petites. » Saint-Simon aurait peut-être pu se renseigner, mais ne se repentant pas de ce faux pas, il a insisté, il poursuivait Beauvilliers en lui disant « Enfin, votre fille, sa vocation religieuse, c'est pas sérieux, il faut la forcer !» Il le coinçait dans les portes à Versailles en lui disant « Je vous ai apporté l'état de mes biens pour que vous montriez, vous voyez que je suis un parti important !» Et finalement, au bout de ses marches et contre-marches, Beauvilliers a fini par lui dire « Mon jeune ami, c'est non et non, mais en échange, je vous promets mon amitié, ma vie durant, et il tiendra parole. » Alors, Saint-Simon, c'est un peu confus, a repris l'affaire du Luxembourg et s'est rendu compte qu'il lui était difficile d'entrer en procès avec son général en chef, ça posait des problèmes. Il a écrit au roi, c'était l'époque où le roi avait encore le temps de s'occuper de ce genre d'affaires entre particuliers, et un jour, Louis XIV, montant en carrosse, s'est retourné vers Saint-Simon et lui a dit « Monsieur, j'ai lu votre lettre et je m'en occuperai. » Et il l'a changé d'affectation. Il l'a retiré de l'armée des Flandres et il l'a mis dans l'armée d'Allemagne. Or, c'est en Flandre qu'on se battait, ce n'était pas en Allemagne. En Allemagne, tous les ans, les Français s'avançaient jusqu'au Rhin, les Allemands de l'autre côté. On échangeait de grands coups de chapeau, quelques coups de fusil. Au cours de la saison, il y avait un parti, les Français ou les Allemands, qui montaient ce qu'on appelle une opération de commando, c'est-à-dire un petit groupe traversait le fleuve et établissait une tête de pont où ils se défendaient courageusement avant de se rembarquer. Et puis, la saison finie, on échangeait de grands coups de chapeau et chacun rentrait chez soi. C'était une campagne, évidemment, qui laissait des loisirs. Et Saint-Simon avait emporté avec lui les mémoires du maréchal de Bassompierre, où celui-ci racontait toutes les batailles où ce vieux soldat avait roulé sa bosse sous Louis XIII. Et il était frappé de cette phrase de Bassompierre disant « Ces mémoires, j'aurais dû les commencer plus tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. » Et Saint-Simon s'est dit, oui, en effet, des mémoires, il faut les faire de bonne heure. Eh bien, je vais commencer tout de suite. Et il s'est mis en cantonnement à écrire déjà ce que les érudits saint-simoniens appellent les prémémoires, dans un petit village qui s'appelle Gimsheim, qui a gardé son centre ancien avec sa petite église et ses vieilles maisons. Je me dis toujours qu'on devrait y poser une plaque bilingue pour me rappeler que c'est là qu'ont été commencées les mémoires de Saint-Simon. Toujours est-il qu'il revient après la campagne, et cette fois-ci, il avait trouvé à se marier tout tout simplement en épousant la fille de son général en chef, le maréchal de Lorge. Le maréchal de Lorge avait deux filles, une brune et une blonde. Au hasard, il faut bien dire, Saint-Simon a choisi la blonde et il a bien choisi. Car ça a été vraiment la chance de sa vie. Gabrielle de Saint-Simon, jolie, blonde, aimante, était une femme intelligente, douce, sachant parfaitement manœuvrer à la cour et manœuvrer son mari, qui l'a payé d'un amour total. Ça a été une liaison conjugale réussie dans toute la cour, et il n'y en avait pas tellement. Ce qui fait que, un jour, quelques jours après les noces, dans les jardins de Versailles, Louis XIV, se promenant dans son fauteuil à roulettes, a dit à Saint-Simon, lui a parlé de sa nuit de noces, et il lui a dit qu'il avait su que je m'en étais bien acquitté. C'est un sujet de conversation que Louis XIV aimait facilement aborder. On raconte qu'un jour, rencontrant le duc de Duzès, il lui dit « Alors, quand accouche votre femme ?» Et le duc de Duzès, qui était un courtisan averti, lui a répondu « Ah, sire, quand votre majesté voudra !» Mais à l'égard de Saint-Simon, Louis XIV était partagé entre deux sentiments. De l'estime pour ses qualités morales, mais en même temps de l'agacement devant les querelles que Saint-Simon soulevait toujours pour des questions de rang et des querelles à la cour. Sur ces entrefaites, la paix est signée à Ryswick, le régiment de Saint-Simon est réformé, et lui est nommé maître de camp à la suite, c'est-à-dire en supplément en quelque sorte, dans un régiment commandé par un simple gentilhomme. Il n'avait aucune envie de se mettre, lui, duc, sous les ordres d'un gentilhomme commun, et il a inventé plusieurs années de suite de se faire porter malade, c'est-à-dire de se faire ordonner une cure à Plombières. Pendant plusieurs années, donc, il a passé le temps militaire à Plombières. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que très vite, la vie de cour a repris. Et on a vu arriver, en décembre 1697, le mariage du duc de Bourgogne, petit-fils du roi, qui a déclenché une débauche de parure extraordinaire. Les femmes y ont figuré en grand habit, avec leurs manches apesanties par des plombs, qui, disait un moraliste grincheux, conviendrait mieux à la tête de quelques-unes, et en même temps des décolletés plongeants, c'était un festival de jolies poitrines. Les Saint-Simon y ont dépensé 20 000 livres. Mais en même temps, comme dans beaucoup de fêtes versaillaises, c'était la bousculade, et Madame se plaignait dans son langage d'avoir vu des gens en train de pisser devant sa porte et même à côté. Au lendemain de ce mariage, Saint-Simon a repris la vie de cour avec ses querelles. Il a lancé toute une querelle dont la vedette était la vieille princesse d'Harcourt, dont il dira qu'elle se soulageait dans ses jupes et qu'elle salissait son chemin d'une effroyable traînée. Cette querelle a agité beaucoup de monde à la cour, a fait beaucoup de mouvements, à tel point que Saint-Simon a cru devoir aller en parler au roi. Il a réussi à aborder le roi à son coucher et le roi l'a écouté tranquillement et a répondu « Cela est bien, messieurs, monsieur, il n'y a rien à cela. » Ainsi, Saint-Simon avait vaincu, mais par ailleurs, il s'était fait des ennemis en grand nombre. Et puis on arrive au grand événement de la cour de Versailles à cette époque, qui est la présentation du duc d'Anjou comme roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Et Saint-Simon a pu, comme nous le ressentons à son récit, admirer la virtuosité de Louis XIV qui a transformé cet événement en spectacle. Ça a été vraiment une journée d'exaltation de la monarchie tout à fait étonnante. Après que Philippe V soit parti pour l'Espagne, le roi a transformé l'appartement royal, a installé sa nouvelle chambre, là où vous la connaissez, et c'est à aménager toutes les parties privées, c'était l'ancien appartement de la reine que Louis XIV avait annexé après la mort de sa femme et dont il avait fait tout un appartement privé avec ses cabinets de collection. Il faut bien remarquer que Saint-Simon n'a jamais été admis dans l'appartement privé du roi où celui-ci en faisait entrer quelques privilégiés. Saint-Simon n'en a jamais été et il a toujours été resté dans les salons qui étaient ouverts à tout le monde. Et puis, en janvier 1702, est arrivée une promotion militaire et Saint-Simon espérait beaucoup passer brigadier. Pourtant, capitaine, maître de camp, il suffisait d'acheter l'unité, mais brigadier, il fallait être nommé par le gouvernement. Et Saint-Simon s'est aperçu que l'on nommait certains maîtres de camp moins anciens que lui et que lui n'en était pas. Il faut bien dire qu'il n'était pas un officier très méritoire. Il se conduisait bien aux armées, mais la vie de caserne ne le séduisait pas beaucoup. Ce qui fait qu'en avril 1702, il s'est décidé à envoyer au roi sa démission de l'armée. Et c'était une décision grave, car la guerre s'annonçait. Et beaucoup plus tard, dans ses mémoires, il fera écho aux remords qu'il a éprouvé d'avoir fait ce geste à l'époque où on aurait pu avoir besoin de lui. Mais c'est une démission que Louis XIV a acceptée, l'a en même temps privé pour sa vie entière de charges et de faveurs. Il était rayé des papiers du roi. Le roi gardait des manières parfaitement courtoises avec lui, l'invitait à Marly très souvent, mais pas question de le distinguer et de lui donner quelque chose en particulier. Et Louis XIV a même marqué ce départ par ce qui était considéré comme soit comme une faveur, soit comme un blâme. Il a désigné Saint-Simon un soir pour tenir le bougeoir. Chaque soir, il désignait un seigneur pendant quelques minutes de tenir le bougeoir allumé pendant qu'il se déshabillait. Transformer ce geste de domestique en privilège, c'est vraiment une des clés de l'organisation de la cour par Louis XIV. Donc, Saint-Simon continue son existence de courtisan, essayant de se faire bien voir, et il souffre d'un gros handicap. Il n'a pas de logement. Il ne loge pas au château de Versailles. Ce qui était très dramatique dans cette vie de cour où les femmes devaient se changer plusieurs fois par jour. Et par conséquent, les seigneurs, les courtisans qui n'étaient pas logés et que l'on appelait les galopins, essayaient de se chercher dans la ville de Versailles un hôtel ou une chambre pour pouvoir se retirer dans la journée, s'y changer, changer leurs bottes, etc. Il fallait donc avoir au moins un pied-à-terre à Versailles, dans ce qui provoquait des allées et venues dans cette ville qui était encore campagnarde et négligée. Et il n'était pas rare de voir un gentilhomme pomponné descendant de son carrosse pour se trouver nez à nez avec un cochon se vautrant dans la boue des ruisseaux. Saint-Simon avait bien un hôtel qui avait été construit par son père, mais il était assez loin, en bordure de l'avenue de Saint-Cloud, pas très commode. Et la solution lui a été apportée par son beau-frère, le duc de Lorge, qui épousait la fille de Chamillard, qui était nommé ministre. Chamillard récoltait l'héritage à la fois de Colbert et de Louvois. Et Chamillard a décidé de s'installer à l'hôtel de Lorge à Paris, et à Versailles, il a logé son gendre, le duc de Lorge, dans son appartement de fonction de ministre à Versailles, ce qui a permis au duc de Lorge de prêter son appartement de Versailles à Saint-Simon. Je vous signale que les différents logements de Versailles ont été de Saint-Simon à Versailles ont été repérés et étudiés par mon ami Pierre Lemoine dans un article des Cahiers Saint-Simon numéro 12. Et donc cet appartement prêté à Saint-Simon se trouvait dans le gros pavillon de l'aile nord, correspondant à la moitié sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la salle de Constantine, et où ont lieu à l'heure actuelle les expositions. À ce propos, j'ouvre une parenthèse pour vous dire d'abord que ces salles d'Afrique créées par Louis-Philippe ont été prolongées par Napoléon III, qui a continué vers des salles de guerre à la mémoire des campagnes d'Italie et de Crimée. Mais elles ont été, ce qu'on ignore rarement, elles ont été prolongées aussi par la Troisième République, qui a exposé la grande toile de la bataille de Rachoven. Ce qui prouve qu'il y avait à ce moment-là, à la tête de Versailles, des conservateurs normaux d'idées, sereins, impartiaux, qui contrastaient complètement avec les politiques de la Troisième République de l'époque, qui professaient pour le Second Empire une haine irraisonnée. Et deuxième remarque, je vous rappellerai que ces salles sont depuis 50 ans fermées au public, parce que pour éviter de froisser les États qui sont représentés comme vaincus. Et chaque fois que la conservation a voulu les rouvrir, elle s'est heurtée au veto gouvernemental. Et personnellement, je trouve que c'est une réaction tout à fait mesquine. Il suffit de se promener dans les musées anglais ou allemands pour y voir des toiles représentant des défaites françaises. Nous n'avons pas l'idée d'y protester. Alors, agir ainsi, c'est vraiment renier l'histoire, et je crois qu'il vaudrait mieux laisser l'histoire aux historiens. Je reviens au duc de Saint-Simon pour vous signaler l'importance considérable qu'est de la vie à Versailles pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y sont logés. Vraiment, c'est les habitants du château, la nuit se trouve chez eux. Le roi lui-même, de temps en quelquefois, se relève, Roger enfile une robe de chambre sans avoir de laquais pour la lui tenir, et il part dans ses cabinets revoir ses collections. Et les courtisans logés ont entre minuit et 8 heures du matin le plaisir d'avoir le château pour eux tout seuls. Ils se visitent, ils se reçoivent, ils festinent, ils papotent, ils complotent, ils mènent des intrigues politiques ou amoureuses. C'est toute une vie nocturne de Versailles dont nous avons, hélas, très peu d'écho. Saint-Simon, donc, bien installé à Versailles, peut y mener sa vie de courtisan, se complaire à ses querelles de rang, ce qui fait se soulève l'hostilité du roi qui lui reproche de monter des procès de rang. Et Saint-Simon obtient d'aller s'expliquer devant lui. Remarquez que Saint-Simon, en 25 ans de Versailles, a obtenu 2 entretiens avec Louis XIV. Et beaucoup de courtisans n'en obtiendront pas autant. Et donc, il s'explique devant le roi qui lui dit « Mais monsieur, vous avez tenu des discours. » Et Saint-Simon ose répondre « Non, sire, aucun. » Il avait tort. Il avait tort, c'était une erreur. Il aurait mieux fait de plaider coupable, car le roi savait pardonner, mais il était rancunier. Donc, cet entretien n'aboutit pas à grand-chose. Les choses se poursuivent. Saint-Simon continue à enfourcher ses défauts. Et c'est d'autant plus grave que nous sommes en guerre, que l'ennemi envahit la France, qu'il met le siège devant Lille, la plus grande conquête de Louis XIV au temps de sa jeunesse, et Saint-Simon ose lancer le pari que la ville tombera. Et ce pari, il le remporte, effectivement, la ville tombe et l'île Saint-Simon est l'objet, évidemment, de l'hostilité de la cour. Et puis, autre épreuve, Chamillard est renvoyé sur la demande de Madame de Maintenon, et par conséquent, le duc de Georges récupère son appartement et demande à Saint-Simon de le libérer. Ce qui fait que Saint-Simon, à la fois privé de logement, en mute à l'hostilité de la cour, a décidé de s'en aller. Et j'en ai assez, je ne veux plus de ce monde que je n'aime pas et qui m'est hostile, je me retire à la Ferté-Villarme et je ne m'occuperai plus que de mes terres et de mes vassaux. Mais Madame de Saint-Simon, qui n'avait aucune envie d'aller se retirer en province, elle savait beaucoup mieux que son mari évoluer dans cette mare aux requins qu'était la cour de Versailles. Elle était beaucoup plus faible et beaucoup plus habile. Et elle le dit à son mari, « Écoutez, mon cher, mon ami, réfléchissons. Nous allons partir pour l'affaire des Vidames. Passez quelques jours, vous aurez tout le temps d'y réfléchir à votre avenir. » C'est ce qu'ils ont fait. Et en revenant, ils se sont arrêtés chez leurs amis, le chancelier de Pontchartrain, au château de Pontchartrain, près de Versailles. Et là, Saint-Simon a été l'objet de toute une offensive de Pontchartrain et de ses amis qui lui ont dit « Mais non, vous n'allez pas quitter la cour, c'est pas possible, c'est votre vie qui est là, vous devez y rester, d'ailleurs vous vous triompherez de vos ennemis, tout ça va s'arranger. » Et Saint-Simon a dit « Mais je n'ai même plus de logement à la cour. » Et Pontchartrain lui a dit « Écoutez, j'ai pas grand-chose, mais je peux distraire de mon appartement une chambre et une garde-robe, ça vous permettra de temps en temps de vous y retirer pour vous y changer et au besoin pour y prendre des notes. » Et c'est comme cela qu'il s'installe dans une partie de l'aile des ministres. Il ne va pas y rester très longtemps, car les choses vont changer. On annonce le mariage du petit-fils du roi, le duc de Berry, qui va épouser une des filles du duc d'Orléans. Et Gabrielle de Saint-Simon est nommée dame d'honneur de la duchesse de Berry. C'est grâce à sa femme que Saint-Simon va ainsi enfin pouvoir se loger définitivement. Le roi lui concède un bel appartement de 5 pièces principales dont dépendaient ce qu'on appelait des demi-doubles, c'est-à-dire des entresols où on logeait la domesticité, où Saint-Simon s'aménage un petit bureau où tous les soirs il prend des notes sur ce qu'il a vu dans la journée. Et surtout, il peut y recevoir. C'est une des choses qui lui séduit le plus en plus. Il peut donner des réceptions, recevoir des amis à dîner ou des réceptions tout à fait étudiées. Il y a vraiment un lien. Il institue un cérémonial à l'échelle de Saint-Simon. On peut se demander quel genre de chaise pouvait être assignée à tel ou tel de ses amis. C'était donc une récréation extrêmement brillante au milieu des années sombres. Ces années sombres qui voient leur apogée en 1711 avec la mort du grand dauphin, fils de Louis XIV. Je vous conseille de lire dans les mémoires le récit de cette nuit extraordinaire du château de Versailles où la nouvelle de la mort du grand dauphin à Meudon se répand d'appartement en appartement. De ces appartements sortent leurs occupants, les uns en grand habit, les autres en tenue de nuit, désemparés, secoués, agités de souvenirs, d'espoir, de suppositions, d'intrigues. C'est vraiment un débat psychologique tout à fait extraordinaire. Et c'est en même temps, je vous le signale, le début d'un funeste destin de la monarchie. Désormais, tous les rois français, jusqu'à Louis-Philippe y compris, verront de leur vivant mourir l'héritier de la couronne. Mais Saint-Simon a vu de cette mort surgir un immense espoir. Le nouveau dauphin, c'est le duc de Bourgogne, l'ancien élève de Fénelon, pour lequel Saint-Simon éprouve une admiration qui n'était peut-être pas tout à fait justifiée. Saint-Simon s'est beaucoup illusionné sur ce jeune homme dont le comte de Caylus, l'astronome qu'il a connu, a écrit: il était haut, dur et colère, et comme il avait peu d'esprit, son gouvernement aurait été terrible. Avec la confiance que la dévotion lui donnait pour les prêtres, ce défaut aurait mis le comble à ceux que j'ai commis en lui. en lui. Saint-Simon, au contraire, voit en lui le roi idéal du futur, qui rétablira les privilèges des aristocrates, qui supprimera les ministres bourgeois objets de sa rancune, et il noue avec le duc de Bourgogne une liaison clandestine, parce qu'il se rend compte qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas devinée par le roi. Et à Marly en particulier, à plusieurs reprises, Saint-Simon va trouver le dauphin dans son pavillon en passant par derrière pour s'entretenir avec lui. Je vous conseille là aussi de lire la page où il décrit cette scène où ils étaient tous les deux dans le cabinet du dauphin, et tout à coup une porte s'ouvre et la dauphine s'en entre. Il y a tout un moment de silence avec les trois regards qui s'entrecroisent et le dauphin qui finit par dire à sa femme: maintenant que vous êtes entrée, il vaut mieux que vous vous en alliez. Le duc de Bourgogne utilise Saint-Simon à écrire des mémoires, une note sur les ducs, une note sur la bulle ou du unigénitus. C'est peut-être à la suite de cette bulle que Louis XIV a fini par fermer d'abord l'abbaye de Port-Royal, où survivaient quelques vieilles nonnes, et ensuite, 3 ans plus tard, la faire raser avec une sauvagerie épouvantable. Et le réveil de cette complicité entre Saint-Simon et le duc de Bourgogne va être terrible. En 1712, on voit mourir successivement la dauphine, puis le dauphin, puis leur fils. En un an, 3 dauphins successifs avaient été morts. Ça a été pour Saint-Simon un coup terrible qui s'est claquemuré dans son appartement de Versailles ou dans celui de Paris, en ne voulant voir personne, en remâchant cette parole de l'Écriture: j'ai goûté un peu de miel et voici que j'en meurs. Et une fois de plus, il a été pris par cette idée de tout quitter, de tout partir, d'aller s'ensevelir, soit dans un cloître, soit dans sa propriété de la Ferté-Vidam. Et c'est encore l'influence de la duchesse de Bourgogne, de la duchesse de Saint-Simon, qui lui a dit: mais non, c'est pas possible, il y aura une régence, on aura besoin de vous dans cette régence. Il accepte, et ce sont les dernières années du règne. C'est en juillet 1712 la victoire de Denain qui au dernier moment rétablit la situation militaire. Ce sont les dernières années avec les intrigues de succession autour d'un héritier fragile. Le comte le duc du Maine et le comte de Toulouse qui intriguent dans la coulisse, et l'influence de Madame de Maintenon qui incite le roi à rédiger son testament où il diminue très fortement le pouvoir du régent désigné, le duc d'Orléans. Pendant ce temps-là, Orléans menait le jeu de son côté, et Saint-Simon aussi. Saint-Simon aurait voulu se passer complètement du Parlement dans cette transition. Mais ce n'était pas possible. Le testament était aux mains du Parlement. On ne pouvait pas l'annuler sans même l'ouvrir. Orléans a mener sa barque d'une autre façon, et Saint-Simon a assisté chaque fois qu'il l'a pu à l'agonie du roi, et il a compris ce que nous commençons à comprendre maintenant, qu'au cours de l'année écoulée depuis le testament, Louis XIV était revenu de sa prévention contre son neveu, qu'il s'était rendu compte qu'il valait mieux qu'il lui faire confiance. Et il l'a reçu en lui disant « Mon neveu, je vous fais régent du royaume de France. » Et aux assistants, il a dit « Suivez les ordres que mon neveu vous donnera. Il va régir le royaume. » En quelque sorte, il laissait les deux fers au feu, et c'est sur ces paroles que le roi est mort. Et au lendemain de sa mort, la cour a quitté Versailles pour Vincennes. Louis XIV, le Saint-Simon va revenir moins souvent à Versailles. D'abord parce que le régent lui a fait un très beau cadeau. Il lui a donné en 1719 l'usage du château de Meudon. Voilà le Saint-Simon qui est maître d'un ancien château royal où il peut s'installer, où il peut recevoir, où il peut vraiment jouer au monarque. C'est un endroit qu'il va beaucoup apprécier. En 1721, il est nommé ambassadeur en Allemagne. Ça a été la grande et parfaitement vaine page de sa vie. Et puis, il revient en avril en 22 à la cour, et la cour réintègre Versailles en juin 22. C'est l'époque où Dubois est Premier ministre. Ne suivons pas trop ce que Saint-Simon a dû de Saint-Simon de Dubois. C'est vraiment, il l'a peint dans des couleurs abominables. Il a fait transcrit sur son papier une véritable haine qui n'est peut-être pas entièrement justifiée. Dubois était certainement humainement peu recommandable, mais ça a été un grand ministre qui a su parfaitement mener les affaires de la France à cette époque-là. En même temps, il y a un autre personnage dont Saint-Simon était l'ennemi, à juste titre d'ailleurs, c'était le maréchal de Villeroy, que Louis XIV avait donné comme gouverneur au jeune Louis XV et qui était aussi mauvais éducateur que chef de guerre. Et il agaçait beaucoup le régent, et c'est Saint-Simon qui a eu l'idée de la machination qui a permis de coincer Villeroy, qui a été arrêté, jeté dans un carrosse et emmené vers son gouvernement de Lyon. Mais Saint-Simon a refusé mordicus de succéder à Villeroy. Le régent aurait beaucoup voulu placer Saint-Simon comme gouverneur de jeune Louis XV. Saint-Simon n'a rien voulu savoir. Et ça, c'est très curieux, parce que Saint-Simon a vécu sous le règne de Louis XV plus longtemps que sous le règne de Louis XIV. Jamais ces deux personnages ne se sont rencontrés. Et pourtant, Louis XV était le fils de duc de Bourgogne, que Saint-Simon avait beaucoup aimé. Jamais il n'y a eu contact entre eux. Jamais ils n'ont compris ce qu'ils étaient l'un et l'autre. Alors, peu de temps après, Dubois meurt. Et du coup, le duc d'Orléans, qui est un peu ravivé par cette mort, propose au jeune Louis XIV, de lui succéder comme Premier ministre. Le jeune Louis XV, qui aimait beaucoup son oncle, accepte tout de suite, et le duc d'Orléans se remet au travail avec beaucoup d'enthousiasme. Mais Saint-Simon, qui lui a rendu visite à ce moment-là, a été effrayé de son aspect physique. Il était manifestement épuisé, sanguin, guetté par une attaque, il refusait de se faire saigner et Saint-Simon est sorti de cette audience avec beaucoup d'inquiétude. Il est revenu à Meudon où il habitait et quelques jours plus tard est arrivé un messager venant lui dire « Le duc d'Orléans a eu une attaque, on craint pour sa vie ». Saint-Simon a commandé tout de suite son carrosse, mais à Meudon, on peut encore voir les lieux, les écuries sont assez loin du château, et pendant qu'il attendait, un second messager est arrivé, disant que c'était fini. Et Saint-Simon est resté là, dans un endroit du parc de la Meudon qu'on peut encore repérer, en réfléchissant, car vraiment, ce prince impie, qu'une mort foudroyante avait saisi en compagnie d'une femme et précipité dans la damnation sans qu'il ait pu se repentir, ce qui, pour les yeux, évidemment, aux yeux de Saint-Simon, c'était terrible, c'était son plus vieil ami, le compagnon de toute sa vie, son contemporain, celui avec lequel il avait cru en vain réformer le royaume. Et à Versailles, Saint-Simon a passé dans son appartement ce qu'il appelle une cruelle nuit. Et à partir de ce moment-là, il a quitté Versailles sans bruit, en y revenant très rarement. En principe, il devait y venir tous les ans pour la procession des chevaliers du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais souvent, il écrivait à Louis XV pour s'excuser de ne pas figurer à la procession. Louis XV se fichait éperdument de la présence de M. de Saint-Simon. Et donc, la procession avait lieu sans lui. Et Saint-Simon avait une tâche beaucoup plus importante à entreprendre. Au début de 1639, il a entrepris la rédaction de ses mémoires, ce qui va lui prendre 10 ans, interrompu hélas par la mort de sa femme, la mort de Gabrielle, qui lui a causé un deuil dont il ne se remettra pas. Mais après cette mort, il a repris son manuscrit pour le continuer. En 1746, son appartement de Versailles est passé à son fils aîné, le duc de Ruffec, mais après la mort de celui-ci, il a été attribué à quelqu'un d'autre. Le nom de Saint-Simon ne figure plus sur les contrôles de la maison royale. Pourtant, on a vu une dernière fois Saint-Simon à Versailles le 4 janvier 1755, quelques jours avant ses 80 ans. Il est venu voir le roi Louis XV remettre la croix de Saint-Louis à son petit gendre, le mari de sa petite fille, le comte de Valentinois. Et il a parcouru une dernière fois les salons du château, chargé des deuils qui se rappelaient à lui. Il avait perdu non seulement sa femme, mais ses deux fils. Il n'y aurait plus de duc de Saint-Simon après lui. Son nom allait s'éteindre. C'était le plus grand malheur qui pouvait lui arriver. Et d'autre part, il avait pris sa revanche en racontant sa vie et son époque dans un manuscrit qui est venu jusqu'à nous exactement sous l'aspect sous lequel il l'a laissé. Mais ce manuscrit, est-ce qu'il est vraiment achevé? Les derniers mots des mémoires de Saint-Simon, ce sont « la suite que je me propose ». Il pensait, en effet, il l'a écrit par ailleurs, raconter ce qu'il était arrivé au personnage qui traversait ses mémoires, comment ils avaient terminé leur vie. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a renoncé? Est-ce qu'il a détruit un brouillon qu'il trouvait médiocre? Est-ce que la goutte l'a empêché d'écrire? Ou le manuscrit subsiste-t-il? C'est improbable, mais possible. Il reste après tout une chance infime de retrouver ce manuscrit dans un lot de vieux papiers ou dans le tiroir secret d'un meuble de l'époque. C'est la grâce que je nous souhaite. Je vous remercie. Disposition de ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions, si je suis capable d'y répondre. Non, ben je vous avoir tout dit.
Si, il y a une dame qui a...
Ah, voilà, je vous en prie.
Oui, nous sommes allés à La Ferté-Vidal. Il ne reste plus qu'une façade du grand château de Saint-Simon.
Le château de Saint-Simon a été détruit par son successeur à La Ferté-Vidal, qui était le comte de Laborde, qui était le banquier de Louis XVI, qui a construit un grand château dont nous avons encore la ruine. Il faut dire que ce château n'a pas été détruit par la Révolution, il a été pillé au début de la Révolution par tous les gens de La Ferté-Vidal qui sont venus chercher des volets, des plaintes, des planches, etc. Il est resté dans cet état. Il est resté tout de même les restes de la chapelle. À gauche de la ruine, vous verrez un reste qui est le reste de la chapelle de Saint-Simon. Il y a quelques années, nous avons... délierer cette ruine et mis une chape de ciment pour la conserver. Je souhaiterais beaucoup, mais ça ne s'est pas fait, que l'on mette une dalle de béton au-dessus du vestibule qui a gardé ses décors en gypserie et qui pourrait faire une belle salle de réunion. Mais le conseil général, qui est propriétaire de La Ferté-Vidal, n'a pas l'air très envie de se lancer dans ce genre d'entreprise.
Le manuscrit de Saint-Simon est où? À la Bibliothèque nationale?
Excusez-moi, je ne vous entends pas.
Le manuscrit,
oui,
de Saint-Simon, il existe encore?
Il est à la Bibliothèque nationale.
C'est ça, la Bibliothèque nationale.
Alors, en trois mots, quand Saint-Simon est mort, il avait eu de grosses difficultés financières. Il avait fini par conclure un accord avec ses créanciers en leur disant « Je vous paierai sur l'héritage, puisque je n'ai plus de descendants, sauf ma petite fille pour laquelle on peut garder une part. » Et les créanciers, vis-à-vis, devant cet héritage, se sont trouvés après tout, se sont dit « Après tout, il n'y a pas grand-chose. » Mais il y a le manuscrit, après tout, ça vaut de l'argent. Nous allons aussi nous en saisir. Alors, Saint-Simon avait des cousins qui sont allés voir Choiseul, le ministre de Louis XV, et Choiseul l'ont dit, c'est pas possible, il faut sauver le manuscrit de M. Saint-Simon. Et Choiseul a dit, eh bien, écoutez, c'est très simple, M. Saint-Simon a été ambassadeur, nous avons donc le droit de mettre la main sur ses papiers. Dans toutes les successions d'ambassadeurs. Et il a donc fait prendre le manuscrit et il les a fait porter chez un notaire. Et le fonds notarial est passé ensuite à la Bibliothèque nationale. Et le manuscrit, ce sont des cahiers manuscrits. Il y en a 16, je crois, tous dans des portefeuilles de Marocains aux arbres de Saint-Simon. Oui, madame.
Qui a organisé la publication de ce manuscrit? Comment c'est arrivé à être publié?
Saint-Simon avait un descendant collatéral qui s'appelait le général de Saint-Simon, qui a eu une carrière tout à fait particulière, mais assez pittoresque. qui un jour est allé trouver le roi Louis XVIII et qui lui dit: sire, je viens vous demander la grâce d'un de mes ancêtres qui est à la Bastille depuis le XVIIIe siècle. Et il parlait évidemment du manuscrit des mémoires. Et le roi Louis XVIII lui a donné l'autorisation de les publier. C'était la première édition, très, très médiocre, mais enfin, tout de même, la première édition des mémoires de Saint-Simon. Mais la grande édition, c'est l'édition Boyil.
En quelle année, toi ? L'édition
Boyil. Oui, madame. Parlez fort, parce que j'ai l'oreille dure.
Non, la célébrité d'aujourd'hui de Saint-Simon tient en partie à son style magnifique.
Pardon ?
La célébrité de Saint-Simon. La célébrité de Saint-Simon tient en partie à son style magnifique. Et j'aurais aimé savoir si son style était très singulier, tranché par rapport à ses compagnons, ou bien est-ce que c'était en accord avec une façon encore de parler lors de son temps. Ou est-ce qu'il était, ou au contraire, était-il très singulier dans sa façon de s'exprimer?
Je ne comprends pas très bien ce que vous...
La façon dont vous parlez de Saint-Simon est très singulière, très particulière d'écrire, sa façon d'écrire. Est-ce que c'est en accord avec une façon de parler ou d'écrire de son temps, ou bien est-ce que Saint-Simon était-il tout à fait original dans sa façon de s'exprimer?
C'est un témoin. Il a, chaque fois qu'il assistait à un épisode qui lui semblait important, il en écrivait la relation. Mais ensuite, ça c'est le signal qu'on nous met à la porte.
Non, c'est quelqu'un qui a une mémoire.
Mais au moment où il a écrit ses mémoires, il faut dire que Saint-Simon avait une grande mémoire, ce qui lui a permis, 30 ans plus tard, de raconter des épisodes auxquels il avait assisté. Il y a toujours décalage, il faut toujours penser, quand on lit Saint-Simon, qu'il raconte des choses qui ont de 30 ou 40 ans antérieurs. Mais mon ami Philippe Ourcade, qui m'a succédé à la présidence de la Société Saint-Simon et qui me fait l'amitié d'être présent, pourrait vous répondre encore mieux que je ne peux le faire. Alors je suis à la disposition de ceux d'entre vous qui voudraient une signature.